RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous du mardi en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Arnaud Valadon et Fred Weiss. Salut messieurs.
Salut Pierrot.
Salut, salut.
Est-ce que vous avez passé un bon Martin Luther King Day?
I have a dream.
Ça ne fait pas fait rêver quand même le match des Spurs. Alors je veux bien qu'il y ait une belle fin de match, mais quel enfer cette rencontre contre Atlanta là.
Le début du Martin Luther King Day était compliqué puisque Philly a détruit quelle équipe? Ils ont détruit quelle équipe? Washington, non?
Non, Washington jouait contre
Houston. Joel Embiid a détruit Alperen Şengün. Voilà, c'était ça.
En même temps, on connaît les qualités défensives de Şengün.
Oui. Les Spurs ont été cata. Moi, je me suis fait mon petit Mavs Pelicans, qui était très intéressant.
C'était un des meilleurs.
Sans Luka.
Sans Luka, 83 points cumulés pour Tim Hardaway Jr. et Kyrie Irving.
Et toi, t'as commenté des matchs
Moi, j'en ai commenté quelques-uns.
Donc, t'as pas beaucoup dormi. Quelques-uns?
Oui.
Plusieurs.
En fait, il y a des matchs qui s'enchaînent, donc on a enchaîné sur certains matchs.
Faudra. Alors là, c'est pas le thème du jour, on va parler des Clippers. Il faudra quand même faire un truc sur Popovic. Hein. Moi, les amis, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais c'est indigne ce que j'ai vu hier. C'est pas possible. Ils font des entraînements, les mecs.
C'est la faute de Pop.
C'est les mecs sont nuls. Je me demande. C'est un débat.
J'ai eu l'impression quand même que sur la deuxième mi-temps, quand on a décidé enfin de donner le ballon à Victor,
c'est bien le débat.
Il a puni des mecs, je pense, à la mi-temps.
Oui, je pense. Et c'est pour ça que le ballon est plus arrivé.
Il démarre la deuxième mi-temps avec un 5, avec des mecs qui sont
starters. Je sais pas, en sport, si tu démarres tes matchs dans le troisième ou dans le quatrième quart-temps, t'as moins de chances de gagner que si tu les démarres au coup d'envoi.
En NBA, t'as parfois plus de chances de gagner que dans un sport.
Là, ça marche pas très bien pour les sports, en tout cas, cette saison.
Pourtant, ça allait mieux.
Justement, c'est pour ça.
La deuxième mi-temps, ça va mieux.
C'est bien pour ça que j'ai vu sur la première mi-temps est indigne. Je sais pas du sport, ça. C'est pas du sport de compétition. Hein. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez.
Si t'es nul, ça arrive d'être nul. Non
mais si t'es nul, tu peux avoir envie d'essayer de gagner quand même, tu vois.
Alors honnêtement, moi je suis un peu d'accord avec toi avec Pop, sauf que à moi faut se poser la question quand même de ces joueurs
que vous
qui
me racontez,
peut-être qu'ils
répondent pas. Mais ça va trop loin, c'est-à-dire que t'es dans une compétition qu'il faut respecter quand même un minimum. Bon bref, c'est pas le thème du jour. Je pense qu'on fera ce débat.
Et puis ça c'est gagné.
Bravo, bravo
Washington.
Washington, c'est dramatique aussi. Hein. Washington, c'est dramatique.
Les Hornets, c'est dramatique. Washington, c'est dramatique. Détroit, c'est dramatique. Et les Spurs,
je pense que Washington, c'est le pire du pire.
Alors, il y a une équipe qui est pas mal en ce moment. Et c'est notre thème du jour. Ce sont les Clippers. Les Clippers, est-ce la bonne année? Débat qu'on fait 5 fois par saison. Et bon, peut-être qu'un jour, on va répondre oui. Et puis, alors là, attention, messieurs, dames, préparez la contrition. Hein. Doit-on des excuses à James Harden? Voilà, tout simplement, c'est notre deuxième débat dans ce thème Clippers. Dans la partie historique, nous allons parler arbitrage. Quel joueur a été le plus avantagé par les arbitres dans l'histoire? Et vous allez voir qu'il y a des surprises dans ce débat à venir. Et puis, votre quiz n'est pas facile aujourd'hui. Ce sera une boucle, hein. C'est pas un spécial Clippers, on va partir des Clippers, on reviendra aux Clippers.
Tour de France.
C'est un tour du monde, nous allons passer par différents endroits.
Autre chose que du basket, j'imagine.
Pas tant que ça.
Est-ce que sur les Clippers, c'est un truc sur les tondeuses?
Non. Ah, mais t'es pas si loin de ça.
Les Clippers, c'est bateau, hein, je crois. C'est...
Rendez-vous à tout à l'heure pour le quiz. C'est parti pour un spécial Clippers tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
First order of business to get into is the Los Angeles Clippers. I can't believe I'm leading the show with the Los Angeles Clippers, but it's true. But you know why? Because they on fire.
Leonard goes to work, down the lane, to the rim, and in! Kawhi Leonard puts the Clippers out in front. It's Westbrook first to the ball, from the line to the lane, back to Leonard. Oh, a south claw spot for Kawhi Leonard.
Kawhi playing some of his best basketball this season. He's healthy, he's springy.
George rises above a double team and puts it in. 21 from George. Westbrook inside. Impact here from Russell Westbrook off the bench.
If this Clipper team stay healthy, I wouldn't be surprised if they make it to the NBA Finals.
Kawhi into the rim. Oh my! Hot damn!
Alors les Clippers au complet, ça marche pas mal, surtout sans les blessures, avec des joueurs à 100%. Ils sont quatrième à l'Ouest avec un bilan de 25 victoires pour 14 défaites. S'il y a une série de 8 victoires de défaites sur les 10 derniers matchs. Il y a un bémol quand même des défaites contre les grosses équipes, hein, Denver, OKC, Boston, ça ne passe pas pour l'instant, en tout cas en saison régulière. Est-ce la bonne année pour les Clippers? Ça va être notre débat parce qu'il y a quand même des sacrés grands joueurs hein, dans cette équipe des Clippers. Fred, est-ce que tu y crois?
C'est dur comme question parce que...
T'as du mal à y croire.
Non, j'y crois un peu.
T'y crois?
Ouais, et ça me fait mal. C'est pour ça que c'est dur.
Parce que t'aimes pas les Clippers en tant que...
J'aime pas tellement les Clippers.
Angelino.
J'aime pas tellement James Harden. Il y a beaucoup de choses qui me font dire que ça me plaît pas. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle qu'ils vont y arriver. Mais j'ai envie de dire que leur équipe est quand même plutôt intéressante.
Plutôt intéressante, oui. C'est un euphémisme plutôt intéressant.
Oui, mais c'était volontairement un euphémisme.
Arnaud, t'y crois ?
J'y crois parce que pour l'instant les stars ne sont pas blessées, elles manquent quasi aucun match, ce qui a été quand même le talon d'Achille de cette équipe. Paul George a manqué 2 matchs cette saison sur quasi 40, hein, on est à mi-saison. Kawhi a manqué que 4 matchs et 0 pour James Harden. Il y a tout début, il était
manqué
tradé.
Que 4 matchs mais pas disputé tous les matchs à 100% quand même, hein.
Non, il y a eu quelques restrictions de minutes mais il est quand même là. Moi, 25 minutes de Kawhi.
Jamais content. Quand il joue pas, quand il est blessé, t'es pas content. Quand il joue,
je suis pas sûr que pour l'instant on l'ait vu à 100%, c'est ce que je te dis. Donc,
ah oui, Leonard, on l'a pas vu à 100%.
Mais heureusement, parce que sinon 5, ça devrait.
C'est top 5 joueurs NBA quand même.
Et bien, bien sûr, mais c'est ça qui est encourageant. C'est ça qui donne.
Après, en moyenne de minutes.
T'étais prof, toi, tu joues 34, tu me désolerais.
Il joue 34 minutes de moyenne.
C'est un des meilleurs joueurs. Ouais, c'est encourageant.
Non, mais depuis le début de saison, je suis pas sûr qu'il ait été encore tout à fait au meilleur de sa forme.
Ouais, je pense qu'ils sont
après, il joue, c'est le deuxième temps de jeu de l'équipe. Il y a juste Paul George qui a 80 minutes de plus, ce qui n'est pas non plus insensé. Il n'y a pas une énorme restriction de minutes comme n'importe quel All-Star quasi vétéran. On fait un petit peu attention. Non, ce qui est intéressant, c'est le sacrifice quelque part de Russell Westbrook il y a déjà plusieurs semaines, qui a dit « Ok, je sors du banc, je vais emmener cette unité 2 ». Et finalement, on a trouvé un équilibre du côté de Tyronn Lue et du coaching avec un Kawhi qui est quand même à 24 points. À 52%, 6 rebonds, 3 pinces. Il est d'une efficacité incroyable. Et ils sont qu'à 3 victoires seulement de la première place de la Conférence Ouest. Donc ils peuvent vraiment aussi s'adjuger un premier tour des playoffs plutôt facile et surtout l'avantage du terrain.
Et ils partaient de loin, donc ils sont plutôt sur une dynamique positive.
Ils étaient à 3 victoires, 7 défaites au tout début. Et depuis, 22 victoires, 7 défaites seulement. Et ce qui est intéressant, c'est le bilan à domicile. C'est une équipe qui est à 16 victoires, 4 défaites seulement à la maison. Donc c'est intéressant sur les grosses équipes de voir comment à la maison elles règnent. On voit Boston est la seule équipe, je crois, invaincue dans la Ligue à la maison. C'est cette solidité vraiment à domicile. Maintenant, à l'extérieur, on sait que c'est souvent une question aussi d'alchimie à développer pour avoir un bon bilan.
Est-ce que tu y crois, Steve ?
Écoute, ça fait 5 ans que j'y crois.
C'était un précurseur à l'époque.
Ouais, mais là, à un moment donné, j'étais découragé. Mais quand je vois ce qui se passe sur ce début de saison... De nouveau, la flamme s'est rallumée dans mes yeux sur cette équipe de Clippers. Alors, je ne vais pas te mentir, j'avais un peu plus d'affection quand Nicolas Batum était dans l'équipe. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est plus forcément mon équipe de cœur. Mais c'est, en fait, pourquoi j'y crois ? Parce qu'aujourd'hui, dans cette conférence Ouest, il n'y a pas d'ogre, en fait. Il n'y a pas d'ogre. Minnesota est une très bonne équipe.
Denver peut le revenir.
Mais Denver est moins fort que l'année dernière. Pour moi, Denver est moins fort que l'année dernière.
Avec grosse brand partie.
Oui. Ils ont perdu trop de joueurs. Alors, je ne te dis pas que c'est une mauvaise équipe. C'est une bonne équipe. Mais ce n'est plus l'équipe rouleau compresseur de l'année dernière. OKC est la bonne surprise de la saison. Mais pour moi, si OKC joue les Clippers en playoff, je ne mets pas une piécette sur OKC. Et donc, je me dis qu'en fait, que toutes les match-up, que ce soit les Wolves, que ce soit OKC, que ce soit Denver, les trois équipes qui sont devant Clippers, moi, je ne vois pas les Clippers plus faible que ces équipes-là, en fait. C'est pour ça que ça me donne envie d'y croire. Et Arnaud l'a dit, c'est une équipe qui est la meilleure de la Ligue sur les 30 derniers matchs. C'est une équipe qui, certes, le petit bémol des bons résultats, c'est qu'ils ont un calendrier ultra favorable. Ils ont joué beaucoup d'équipes très faibles.
Et ils ont perdu contre les gros. Hein.
Oui, ils ont perdu Minnesota récemment, mais ils ont joué les Spurs 3 fois, Portland 2 fois, Memphis 2 fois. Donc j'attends de les voir s'ils sont capables à un moment donné dans la saison, parce que c'est bien d'avoir des bons résultats, mais on a envie de voir aussi leur niveau contre les gros. Pour l'instant,
ouais, mais c'est bien de se roder aussi. C'est une équipe qui est en rodage.
Mais avant d'arriver en play-off, c'est bien d'avoir tapé un ou deux gros quand même.
Ça, on sait que ça va forcément arriver.
Bien sûr, mais
ils vont jouer contre Boston là bientôt.
Oui, ils vont jouer contre Boston. Mais ils ont perdu déjà une fois contre Boston cette saison. Maintenant, cette équipe-là, j'ai envie de féliciter les joueurs, mais j'ai surtout envie de féliciter Tyronn Lue, qui pour moi montre que c'est le gratin du coaching, parce que intégrer James Harden comme ça sur un début de saison, sachant que tu as déjà 3 Hall of Famer dans ton équipe avec Harden, avec Leonard, Paul George et Russell Westbrook, et il fallait trouver des décisions, parce que les 5 premiers matchs, parce qu'à un moment donné, il s'est dit, je peux pas faire sortir quelqu'un du banc, donc il va jouer avec les 4 en même temps. C'était l'équipe la plus tragique de NBA en termes d'offensive rating. Ils étaient pires que les Pistons sur les 5 matchs joués où les 4 étaient titulaires, Pierrot. C'était catastrophique. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est une caméra cachée, les 80 en même temps.
Il y a qu'un seul ballon, ils sont quatre sur le terrain, c'est bien compliqué.
Et donc, Tyronn Lue s'est adapté, en accord avec Westbrook, ça sort du banc.
Il a pianoté, il a d'abord fait des duos pour les faire rentrer.
Exactement.
Il a vraiment pianoté.
Terrence Mann, qui est aujourd'hui le cinquième garçon dans ce 5 de départ, ça fonctionne bien, la seconde unité est bonne. Tyronn Lue est très bon. Et d'ailleurs, LeBron James, je sais pas si vous avez vu un jour LeBron James dans le vestiaire où les Lakers perdent contre les Clippers, il lui demande, alors, vous pensez quoi de l'équipe d'Ardennes et tout ça. Et LeBron James, il dit, l'équipe d'Ardennes ? Il dit, bah oui, non, c'est l'équipe de Tyronn Lue.
Il y a beaucoup d'amitié déjà.
Mais... Beaucoup d'amitié et beaucoup de respect, mais est-ce que le boulot de Tyronn Lue est fantastique parce qu'il joue bien au basket. C'est la meilleure équipe au pourcentage à 3 points. Ce qui, quand tu démarres avec Westbrook dans le 5, ce pourcentage-là, forcément, il baissait. Ils ont que des mecs qui mettent dedans. Et beaucoup d'isolation, forcément, quand t'as James Harden, mais que t'as des joueurs de 1 contre 1. Ouais, non, Paul George, Kawhi.
Vrai créateur, oui. il crée pour les autres, bien sûr. Que ça force pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aucun force, chacun crée pour l'autre, ils font les décalages, drive and kick, shoot à 3 points ouvert. Et c'est pour ça qu'en plus
mais vous parlez de l'attaque, parce que, alors oui, il fallait créer quelque chose, mais on savait qu'il y avait un énorme talent offensif dans cette équipe. Moi, je trouve défensivement, ils sont plutôt parmi les bons élèves. Ils sont
James
Harden, à 112
attention
points.
À ce que je veux dire, James Harden défend bien cette année.
Alors on va en parler, on va faire un débat sur James Harden dans 2 minutes.
Et tu vois, ils sont à 112 points de moyenne, ce qui est plutôt dans le top 8, top 9 de la NBA, sans après, être après, incroyable, après, mais après, au moins ils sont dans des standards respectables.
Après, tu as quand même Paul George et Kawhi Leonard qui sont au top 10 défenseurs sur les postes extérieurs. Hein. C'est quand même deux monstres défensifs. Et là où... on rappelle que Kawhi Leonard a prolongé jusqu'en 2027 il y a 10 jours, ça veut dire que c'est un garçon qui croit au projet, qui pense que cette équipe-là peut aller très haut. Il y a la nouvelle salle qui va arriver, qui va être exceptionnelle, et d'ailleurs ils vont organiser le All-Star Game je crois dans 2 ans,
oui,
ou dans 3 ans. Ils ont des big men qui mine de rien paye pas de mine. Ils ont récupéré Daniel Theis,
c'est un super ajout en
qui
fait.
Est arrivé parce que Plumlee est blessé, ils ont récupéré Daniel Theis l'allemand et Ivica Zubac qui fait sa plus belle saison en carrière. Ils ont du matos.
Il profite des offrandes de tout le monde aussi.
Exactement.
Forcément, plus ses rebonds offensifs, plus
exactement.
Le taf qui fait de l'ombre, bah forcément, il fait une belle saison.
Ils ont du matos. Notre ami Norman Powell qui sort du banc, qui sait où se trouve le panier et qui est un fantastique shooter à 3 points.
Ça, il n'a pas de problème. Il n'est pas timide.
Et quand tu me dis, est-ce que les Clippers peuvent aller au bout, je vais te répondre que oui, les Clippers peuvent aller au bout, Pierrot.
Pas loin d'en faire un favori presque, j'ai l'impression là.
Moi j'aime beaucoup. Moi,
pas Stephen loin d'être favori, dans cette conférence Ouest où t'as l'impression que c'est plus à l'Est où il y a les ogres et que ça va être très compliqué d'aller chercher ce ticket de vainqueur de la conférence Est. À l'Ouest, c'est tellement ouvert parce que.
C'est qui les ogres à l'Est ? À part Boston.
Boston, Milwaukee et
Milwaukee,
Philly.
Tu trouves que c'est un vrai ogre ?
Ah, ils sont là quand même.
Philadelphie avec le retour d'Embiid, ça va être costaud quand même.
Moi je sais pas. Moi, honnêtement,
moi je trouve
que
c'est
plus
dense. C'est les trois premiers quand même. Moi, je trouve que c'est plus dense à l'Est qu'à l'Ouest, où tu ne sais pas qui sort vraiment du lot.
Alors après, je vais vous donner une petite stat, si on peut dire, en tout cas une info, sur les 2 défaites du mois de décembre de la fin de l'année 2023 en back-to-back contre OKC et Boston, Kawhi Leonard n'est pas là. Hein. Donc on va voir là, fin janvier, l'affrontement avec Boston, ce que ça va donner.
Complet.
Pour de vrai. Même si en début de saison, ils se sont fait éclater à domicile par Denver sans les titulaires.
C'est différent.
Quand tu es Jason Tatum, tu es quand même content d'affronter les Clippers quand il n'y a pas Kawhi Leonard.
Oui, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire. Exactement, c'est pour ça qu'on va voir un peu. Il va y avoir un vrai match le 27 janvier.
Oui,
là. Très bien. Favori, pas favori, vite fait, bien fait.
À l'Ouest, pardon.
Favori pour le titre. Pour le titre, on ne va pas commencer.
Non, mais moi j'aime bien.
Pour le titre ?
Oui.
Non.
Qui est ton favori ?
Boston.
Boston ?
Boston, et toi Arnaud ?
Boston.
Mais Boston, oui, c'est bien, bravo.
T'aimes pas Boston ?
Si, j'aime beaucoup Boston. Avec les deux gâchettes là, Jaylen Brown et Tatum, mais ils ont souvent échoué sur la dernière marche quand même. Mais
il faut voir Porzingis. Porzingis, s'il est en bonne santé, pour moi c'est le...
Qui t'a joué au Lidé maintenant.
Qui fait la différence, Porzingis.
Basket Time spécial Los Angeles Clippers cette semaine sur RMC, en podcast sur rmc.fr. Et nous allons parler de James Harden particulièrement.
Oh, he does it again! James Harden with another 3!
Everyone thought when James Harden got traded to the Clippers, it would be a disaster.
James Harden on the Clippers has been an absolute disaster.
Will Harden ever be a hero again?
Absolutely not, because I didn't think they needed another score.
It does look like a disaster. I don't expect that to last.
But there's one thing you must do, and that's stay patient.
Harden controls, Clippers by 3. Sidestep 3, it's good! Counted on a foul! on the all-time leader in four-point plays, has a chance to add one more to the resume.
With the help of James Harden, the Los Angeles Clippers have become one of the best teams and stories in the NBA.
Step away three for Harden. He put it in.
Harden shows off the handles. The step back.
The player leading the charge is the one and only Mr. James Harden.
Alors, James Harden, voici le débat qu'on vous propose aujourd'hui. Doit-on des excuses à James Harden ? À 34 ans, il prouve qu'il est capable de se fondre dans un collectif. Ne me regarde pas avec ce regard méchant, Fred. Aux côtés de trois grands joueurs, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Ses chiffres sont en baisse, certes, mais est-ce que ce n'est pas pour le bien de l'équipe ? Un petit rappel de ce que vous disiez au moment du trade d'Harden aux Clippers en début de saison.
Encore une fois, ça, on a cédé aux caprices d'enfant gâté de James Harden, mais
alors je sais pas si ça peut marcher hein, parce que il est vieillissant, c'est pas facile d'intégrer un joueur comme
34
lui.
Ans.
Est-ce que Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard, c'est une bonne idée en termes d'alchimie d'équipe et de partage du ballon? Il y a un mec qui a réfléchi à ça en fait.
L'alchimie, elle va être super difficile à trouver avec Harden, c'est sûr.
L'équipe elle est cohérente, mais moi je veux savoir, Tyronn Lue, explique-moi mon grand, comment tu vas jouer au basket?
C'est pas ma conception du basket en fait.
Là où je veux rejoindre Steven, c'est que je pense que ça va être incoachable.
Alors, si vous avez des excuses à formuler, c'est maintenant, messieurs. À Tyronn Lue, mais pas uniquement.
Des excuses pourquoi?
De ne pas avoir cru en James Harden aux Clippers.
C'est Tyronn Lue qui devrait s'excuser.
Pourquoi?
D'avoir essayé de mettre les quatre en même temps sur le parquet et d'avoir compris que finalement ça marchait pas.
Job, il nous donne une solution,
il nous donne raison.
Ouais, mais là t'es dur.
Il nous donne
là,
raison.
T'es dur de dire que Tyronn Lue doit s'excuser. Justement, il a
après,
trouvé.
Il a réussi
à s'adapter, il a trouvé.
Au départ, c'était pas ça l'idée.
Je suis d'accord. Sauf que peu importe comment c'est le départ. L'important justement, c'est tu fais une erreur, tu t'adaptes et tu fais mieux. Et c'est ce qu'il a fait, Tyronn Lue.
Oui, et puis vous avez présumé quand même de la capacité d'adaptation de James Harden aussi. Excusez-moi.
Attends, on va
partir du principe que c'était un glouton.
On va pas s'excuser.
Moi, je peux
m'excuser. Si les champions pourront s'excuser.
Moi, je vais pas m'excuser.
Moi, je peux m'excuser d'un truc.
Fred, d'un vas-y. Truc.
Bah, en fait, j'ai présumé que c'était pas un joueur intelligent.
Exactement.
Donc, à chaque fois, je me fais avoir, hein, parce que quand il est honnête, il a été intelligent.
Après, t'excuses pas tout de suite.
Parce
qu'à Brooklyn et à Philly, on a failli s'excuser aussi parce qu'il était rentré dans le moule.
Mais je me suis excusé et je l'ai trouvé très bon aussi aux Sixers. Je trouvais que c'était adapté, etc. Sauf que je vais m'excuser pour aux joueurs. Mais par contre, c'est toujours un immense trou du cul comme mec. Je suis désolé, à un moment, il faut arrêter. Le gars, il a fait n'importe quoi, il traite les gens mal. Non, ça, je m'excuse pas pour ça. Par contre, oui, c'est un immense joueur, un joueur ultra intelligent. Et quand il est dans une équipe, l'équipe joue mieux. Oui, l'homme est je préfère pas dire ce que j'en pense.
Bah, là, tu l'as dit, hein,
donc oui,
tu peux y aller. Hein.
Attends, il faut quand même dissocier les choses. Avec Fred aussi dans ce podcast, on n'a jamais dit que James Harden était un mauvais joueur de basket.
Vous avez présumé qu'il resterait un glouton toute sa vie.
On a remis en cause sa capacité d'être l'option numéro 1 d'une équipe. À chaque fois qu'il a été franchise player d'une équipe, il n'a pas gagné. À chaque fois, il a pris en otage des équipes pour ensuite partir comme un malpropre et laisser derrière lui des vestiges dans une franchise. Il a détruit des franchises, que ce soit Houston, que ça soit Brooklyn.
Oui, ça c'est l'être humain plus que le basketteur. Ben voilà. Le basketteur, il n'y a pas grand chose à dire.
Maintenant, je ne vais pas m'excuser d'être content que James Harden se rende compte qu'il peut être bon en troisième option d'une équipe en tant que joueur de basket. J'ose espérer que James Harden, quand il arrive aux Clippers, il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il est moins fort que Kawhi Leonard et qu'il est moins fort que Paul George quand même.
Et c'est pour ça que je m'excuse, parce que je n'étais pas sûr qu'il soit capable de le faire.
Ah d'accord.
Et à chaque fois, je suis surpris de me dire que ce mec-là, qui a l'air d'un glouton, qui a l'air de rien comprendre dans la vie de tous les jours, sur le terrain, il sait s'adapter.
Oui, on peut le dire bravo, James, bravo.
Oui, c'est ça.
Écoute, j'attends déjà de voir s'il est champion, parce qu'il fait partie sur les 10 dernières années. Il n'y en a pas énormément des MVP qui ne sont pas champions. Alors, Joel Embiid, ça reste récent son titre de MVP, mais les deux derniers sont Russell Westbrook et James Harden qui sont MVP et qui ne sont pas champions. Ce qui fait quand même tâche, parce que le palmarès de James Harden, c'est certes MVP 2018, mais ça reste deux médailles d'or avec Team USA au JO en 2012. Et,
c'est pas dégueu non plus. Hein.
Non, mais bon, c'est avec Team USA, c'est pas toi.
T'es pas champion, ton palmarès, il est pas exceptionnel, c'est comme ça. Il n'y a que le titre de champion NBA qui compte.
Il a le même palmarès qu'Arnaud Valadon.
Mais NBA. J'ai autant de titres NBA que
champion olympique qu'Arnaud Valadon.
Mais je vous rappelle, je vais pas m'excuser pour un mec qui a dit haut et fort que le système c'était lui.
I am the system.
Le système c'est lui. Mais là il nous montre que aux Clippers c'est pas
Mélenchon
lui.
C'est champion, c'est moi.
C'est pas lui le système que ça va mieux.
Exactement. En fait, c'est très bien que le système soit pas lui. C'est que ça fonctionne. fonctionne un peu mieux.
Mais est-ce qu'on va s'arrêter sur des déclarations ou est-ce qu'on va regarder les matchs?
Parce que ça résume toute sa carrière.
Mais c'est pour ça qu'il y a deux facettes. Il y a l'homme, que moi je n'aime pas du tout, son attitude est catastrophique, et c'est ce que j'aime pas à notre époque. Et ensuite le basketteur, qui est un basketteur qui a été très fort quand il jouait pour lui, et qui peut être très fort et qui peut faire jouer une équipe. Et les Clippers, quand il est sur le terrain, sont meilleurs.
Il a 17 points par match, ce qui est son plus faible taux depuis OKC.
Oui, mais c'est meilleur pourcentage à 3 points en carrière. Je crois qu'il a 43%. C'est la première fois qu'il prend autant de catch and shoot en carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, c'est pas lui qui a la création, c'est Kawhi, c'est Paul George, et lui sur du spot-up. On sait que c'est un garçon capable de mettre des tirs à 3 points.
Hein. Oui,
et sur du catch and shoot, quand les deux ont fixé, souvent, il est grand ouvert. Donc, il est à droit. Ça, c'est très bien. Après, James Harden, je ne sais pas si vous avez vu Ivica Zubac, le pivot des Clippers, dans le podcast de Paul George, qui explique que quand James Harden est arrivé aux Clippers, au début, à chaque fin d'entraînement, il disait à Zubac, on va travailler le pick and roll. Donc il travaille le pick and roll une fois, deux fois, et Zubac, à un moment donné, lui dit, non mais grand, moi je veux pas faire ça tous les jours. Tu veux pas faire ça tous les jours? Donc le match d'après, Zubac a été catastrophique. Harden est parti voir le vestiaire, il dit, t'es sûr que tu veux pas continuer à travailler le pick and roll? Donc Zubac a dit si, et depuis, Zubac, il a ses meilleurs points, sa meilleure moyenne de points en carrière. Il y a une vraie connexion qui s'est créée. C'est un bosseur, James Harden. C'est un garçon talentueux. C'est un garçon qui met en place, dans les Clippers, le système, qui met en place Kawhi, qui met en place Paul George, qui fait vivre le ballon. Mais c'est parfait et je suis très heureux que ce soit pas lui au cœur du système qui monopolise les ballons. Et c'est comme ça que ça marchera.
Après, est-ce que ça va continuer comme ça en play-off? C'est une autre question.
C'est la vraie question.
Voilà, tu demandes de nous excuser. Ouais, il reste encore 40 matchs.
C'est beaucoup trop tôt.
Tu sais pas ce qu'ils vont faire.
Tu sais pas comment ça va se passer. C'est vrai que
Parce que s'il perd le premier tour, Jean Fred, c'est un trou du cul.
Non, mais là on fera un podcast et on demandera à James Harden de s'excuser auprès de vous. Et je suis sûr qu'il viendra en plus. Arnaud, il a son numéro. Depuis qu'il allait à NBA,
il a le numéro d'Agnès Stone et Harden.
Vous avez un doute sur les playoffs ou pas?
Oui,
je sais pas.
Moi j'ai toujours un doute quand j'ai James Harden dans une équipe, j'ai toujours un doute. Enfin, parce que si jamais il peut péter les plans à un moment.
C'est tellement différent les playoffs.
Et j'ai un doute sur la santé des garçons aussi. Si Kawhi va pas refaire un truc au genou, va pas faire un truc sur une cheville, mais pour revenir sur ce que Harden fait aux Clippers, c'est ça fait 10 ans qu'il a pas eu si peu le ballon en main. Il a quand même mis sa patte sur les Clippers. Les Clippers restent malgré tout l'équipe qui joue le plus d'isolation, mais qui met le plus de points sur le scoring en 1 contre 1. Donc là aussi, c'est parce qu'il y a James Harden et que c'est un joueur de 1 contre 1 et que Kawhi et Paul George sont des joueurs de 1 contre 1. Mais je le répète, il avait déjà transformé le jeu à Brooklyn, il avait déjà transformé le jeu à Philly. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc, je suis patient, j'ai pas envie de me mettre accroupi.
Il y a eu des circonstances. Quand il va au Nest, le trio, ça marche pas parce qu'il y a des blessés, etc.
Oui, mais il avait su se réinventer. Rappelle-toi, on avait dit il s'est transformé en meilleur de jeu et tout.
Mais même aux Sixers, il s'est réinventé sur les pick-and-roll justement avec Joel Embiid. Sauf que ce qui s'est passé sur les playoffs, Joel Embiid se blesse et il se retrouve tout seul. Et tout seul, il ne peut plus tenir une équipe. Tu l'as dit tout à l'heure et je suis d'accord avec toi. Donc forcément, ça complique la tâche.
Sauf que les passages où il se réinvente, ça dure 6 mois généralement. Donc c'est voir dans le temps aussi la saison d'après. On se dit, tiens, il est beaucoup plus efficace. Et moi, j'aime bien ce James Harden qui croque pas, qui a des bons pourcentages. Il n'avait jamais été au-dessus de 40% à 3
incroyable.
Points.
Oui.
Mais
c'est comme un mec qui ne peut pas s'empêcher de tromper sa femme. Tu vois ce que je veux dire?
Always a cheater.
Alors, on veut l'œil de l'expert.
Ou un menteur.
Alors, il trompe sa femme une première fois. Bon, il se fait dégager. Il rencontre une deuxième femme. Il dit, je vais essayer de m'améliorer. Donc, il s'améliore 6 mois de plus. Mais au bout d'un moment, il craque. Il retrouve sa femme.
J'ai changé.
Il dégage. Après, il rencontre une troisième femme. Je m'améliore.
J'ai changé.
Finalement, il recraque.
Stephen, once a cheater, always a cheater.
Voilà, Pierrot.
Tu crois à ça, toi?
Bien sûr.
C'est pour ça que t'as jamais bougé une oreille.
Moi, je bouge pas.
Mais comment tu peux faire cette comparaison?
Je
ne
sais pas, je pense à ça.
C'est l'expérience de vie, ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Qui ne me concerne pas. Mais que j'ai pu côtoyer au quotidien dans certains vestiaires.
Dans des vestiaires, bien entendu. Après, il y a l'aspect défensif que tu soulignais tout à l'heure, Steve. Il a changé quand même, il a progressé de ce point de vue-là.
Il fait des efforts. Je ne te dis pas que c'est le meilleur défenseur. On a tous en mémoire des clips de James Harden. Quand il y a Houston, ou je ne sais pas quoi, il est perdu, il ne sait pas ce qu'il fait. Là, il est un peu plus impliqué. Il fait des efforts sur les pick and roll pour surpasser, sur le repli.
Il est tellement intelligent qu'il a un QI basket qui lui permet de sans faire trop d'efforts de défendre un minimum.
T'aimerais le rencontrer, Fred?
J'aimerais comprendre ce garçon. Vraiment.
Discuter avec lui une demi-heure.
Alors lui, il s'en fout complètement.
T'aimerais bien dans un street club. T'aimerais bien dans un street club avec lui.
Bah, je pense que c'est l'endroit où il parlerait le plus. Donc oui, pourquoi pas.
Disons, tu fais une demi-heure dans un dîner en tête-à-tête avec un petit café et des œufs au bacon, et une demi-heure dans un strip club avec James Harden. Ok, une heure en tout.
Je serais plutôt une heure dans le strip directement.
Mais la question, c'est tu commences par quoi? Tu vois?
Ben, je commence
par quoi? Par le dîner ou pas?
Non, je pense, parce que tu fais une erreur. Le mec,
moi, je pense que tu fais une erreur. Tu commences par le strip.
Tu crées les connexions. Tu crées les connexions et après, il se livre à toi sur le.
Tu vas pas envoyer des billets, tu vas pas pouvoir suivre.
C'est ça qu'il faut faire. Ok, tu y penseras quand la situation se présentera.
J'irai retirer plein de billets de 1$.
On va organiser ça avec Adam Silver.
T'as déjà été dans des strip clubs aux États-Unis, Pierrot?
Non, jamais. Mais tu sais quoi, les États-Unis, je connais très peu à part New York.
Tu sais que nous, quand on dit ça, strip club, t'as l'impression que.
Il y a un côté institution.
Là-bas, c'est très culturel. Enfin, moi, je suis allé dans les strip clubs. Il y a des couples qui vont dans les strip clubs, mais pour discuter, pour boire un verre. Ils sont pas tous en train de balancer des liasses sur les fesses des femmes. Ça fait partie, comme si tu vas boire un verre, je sais pas moi, au palais de Tokyo.
T'as fait combien de strip clubs là-bas?
J'en ai fait 3-4.
3-4 ?
Ouais.
Ok. Et Letty était contente, elle était avec toi. Et
non, elle n'était pas discuté. Là, parce que c'était des voyages.
Mais c'est pas naturel, il y a le temps, c'est culturel
avait,
pour
il
eux.
Il y avait des couples, il y avait des mecs qui balancent les dollars, quoi.
Bah oui,
t'es rentré les deux.
Non, moi je regardais, moi j'étais.
Des gens bien au Moulin Rouge, tu vois.
Moi j'étudiais pour pouvoir te retranscrire ce que j'ai vécu, Pierrot.
On salue Laetitia Kamba. Oui. Écoute Basket Time, j'espère quand même. De temps en temps.
Ouais, mais là, on va...
Peut-être pas chaque semaine.
On va couper la partie.
Là, tu vas faire gaffe. Si elle se met à télécharger Basket Time, tu diras ah, on vient, on va se balader.
Elle m'a dit attends, je finis le podcast. Non, la fin est nulle.
Est-ce qu'on a fait le tour sur James Harden?
Oui,
je pense que Fred et Arnaud, rien de plus.
Mais non, je dis, défensivement, il sait faire les efforts quand il faut. C'est pas un grand défenseur, ce sera jamais un grand défenseur. Pas parce qu'il peut pas, c'est parce qu'il veut pas, il s'économise pour la tâche.
La différence voilà. Entre pouvoir et vouloir.
L'heure du jugement sera en avril-mai pour James Harden.
On va continuer ce spécial Clippers en parlant arbitrage. Kobe, up against Matthews. Got him out of position. Headed to the line, looking to tie things up. Wade with six shots. Drives in, takes on Gobert, missed it, but a foul with 3.2 seconds left. Gobert fouled Dwayne Wade. Continues here in LA, and Kobe's headed to the line looking for the three-point play. Michael drives past Porter, goes strong to the hoop, scores it in, and draws the foul. A circus shot by Jordan. L'arbitrage NBA s'est adapté au jeu de Harden il y a quelques années. On va en profiter pour parler arbitrage. Alors dans l'histoire, bien sûr, avec cette question, qui pour vous, quel joueur a bénéficié le plus de la mansuétude des arbitres? Qui a été le mieux arbitré, en gros? Juste un tout petit mot quand même sur l'actualité, parce que le sujet en ce moment fait rage en NBA. Les coachs de Toronto et de Sacramento se sont plaints publiquement de la façon dont ils sont arbitrés. C'est quoi le débat exactement? C'est de la paranoïa de coach, ou il y a un vrai problème avec l'arbitrage en NBA en ce moment?
J'ai l'impression que chaque année, depuis 2-3 ans, il y a un vrai débat sur l'arbitrage. On se rappelle aussi d'un call très controversé sur Jaylen Brown à la fin, sur un truc des Pacers où les arbitres étaient partis voir la vidéo pour annuler la faute, alors qu'il y avait clairement une faute sur la tête de Jaylen Brown. On se rappelle de LeBron aussi, qui est souvent contre l'arbitrage. Il y a parfois des matchs où les arbitres sont complètement en travers. Et j'ai l'impression qu'en NBA, avec ce truc de visionnage de vidéo où il y a la caméra sur eux, j'ai l'impression que les arbitres
responsabilisent,
mais surtout ont un rôle trop important et que ça devienne presque des acteurs du match alors que ça devrait être les joueurs. Ils se mettent en scène. J'ai vu un arbitre expliquer une décision, faire une petite grimace, le mec a la caméra sur lui, il s'est pris pour un acteur. J'ai l'impression que les arbitres, on les voit un petit peu trop en NBA, ils sont trop scénarisés et ils deviennent trop importants. Le coach des Raptors, il a pété un cap parce que je crois que son équipe a tiré 4 lancers dans le 4ème quart-temps et qu'en face, ils ont tiré 23 ou 24.
Alors, honnêtement, moi, j'ai pas vu ce match-là, mais sur le papier. C'est vrai que ça paraît énorme.
Ça paraît un énorme déséquilibre. Il faut revoir les matchs et voir tous les calls. Mais 23 ou 24 lancers francs à 4 sur un 4ème quart-temps, ça paraît énorme. Et le coach de Sacramento qui est venu avec Mike Brown, avec son ordinateur pour montrer une situation où il n'y avait pas faute. Le problème, c'est que les coachs aujourd'hui sont sous pression en NBA. Ils ont des obligations de résultats.
Ouais, que les assistants sont sur le banc.
Oui, ça a toujours été des arbitres.
Mais maintenant, les assistants en temps réel peuvent voir s'il y a faute ou pas. Sauf que maintenant, l'arbitre, c'est tout le monde.
L'instantanéité
de la vie en
général et qui s'adapte pour le monde du sport, ça fait qu'aujourd'hui il y a toujours des réactions à chaud immédiates.
Mais est-ce qu'on n'est pas sur une évolution logique dans tous les sports? Regarde Pierrot, au rugby, avant il n'y avait jamais un débat sur l'arbitrage et aujourd'hui l'arbitrage au quotidien
est remis en cause. Une question de culture qui change un peu en rugby.
Trop fort, c'est trop puissant, ça va trop vite. C'est pour ça aussi qu'il y a des problèmes d'arbitrage dans tous les sports.
À une époque, on estimait que Harden était trop bien arbitré, c'est-à-dire qu'on ne savait jamais rien sur lui. Ça a disparu quand même ou pas?
Un petit peu.
Donc c'est plus du tout la même histoire. C'est
même
pas
si,
la...
même si notre ami Jojo Embiid, le franco-camerounais américain, passe quand même sa vie continuellement sur la ligne de lancer franc.
Il est tellement puissant, tellement fort techniquement, c'est difficile de pas faire faute sur lui quand même.
C'est vrai, même si parfois j'ai l'impression de balancer ses bras un petit peu n'importe où. Mais écoute, même Lucas, des fois il prend je kiffe les Mavs. Hein. Des fois je regarde, il fait n'importe quoi et j'entends un coup de sifflet. Je dis faute pour Lucas de lancer. Ok, très bien. Je prends
donc, Lucas parfois.
Il a aussi à tout fait pour que l'attaquant soit privilégié.
Que l'agressivité. Déjà,
ouais. C'est compliqué, tu enlèves le head checking, comment tu défends sur des mecs aussi puissants, aussi rapides?
Alors
c'est
justement, on va remonter un peu le temps pour voir que ça a toujours existé. Qui, selon vous, est le joueur qui a été le mieux arbitré, le plus avantagé par les arbitres dans l'histoire, Arnaud?
Je vais prendre, alors, dans l'histoire, je ne sais pas, mais moi ça m'avait marqué, c'est Dwayne Wade. Notamment sur la fin des années 2000, où il est le leader du Miami, il est rejoint notamment par Shaq, et il y a cette fameuse finale 2006, désolé Stephen, en 6 matchs. Combien de lancers francs a eu Dwayne Wade
en moyenne,
à votre avis? Non, au total, sur les 6 matchs.
Parce que victoire 77
lancers. Alors évidemment, quand on parle de coup de sifflet, c'est toujours compliqué parce que c'était aussi un joueur qui attaquait énormément le panier. Donc plus tu attaques le panier, plus tu provoques des fautes. Mais quand même, ça avait marqué aux États-Unis, ça avait fait un petit peu parler. Quasiment 100 lancers en 6 matchs. Vous faites rapidement le calcul, on est à plus de 15 lancers tiré par match.
Finale achetée.
Et même en une saison, je crois que c'est soit la saison d'avant, soit celle d'après, en une saison, il a tiré 803 fois des lancers, c'est-à-dire quasi 10 par match. À une époque où c'était pas forcément le James Harden de Houston qui a eu aussi, au milieu des années 2010, près de 10 lancers par match tirés, ça sifflait un peu moins de possession. Donc c'était quand même colossal. Et puis... Alors, Dwayne Wade, il y a aussi le côté, tout le monde l'aime bien, Flash, tout le monde aime bien Dwayne Wade, ce qui dégage, le joueur, côté genre idéal, mais c'était quand même un truqueur. Et il flopait. Je vous propose d'écouter ce commentaire. Nous sommes en 2013, finale NBA Miami-San Antonio. C'est le match 2, action entre Dwayne Wade et Manu Ginobili. Coup de sifflet. Là, en fait, on est à San Antonio, donc vous entendez... Jeff Van Gundy qui s'exprime. Trust the player. Donc la
ne
phrase.
Ne faites jamais confiance aux joueurs.
Jeff Van Gundy qui cite Steve Javi, illustre arbitre NBA, qui lui avait confessé un jour ne jamais faire confiance à un joueur, ses réactions. Pourquoi l'action? En fait, c'est une remise en jeu et Manu Ginobili vient un petit peu fermer le long de la ligne de touche. Et là, Dwayne Wade fait avec sa tête oh, je suis touché! Alors qu'en fait, Ginobili ne le touche pas du tout et il a le coup de sifflet. Donc voilà la petite anecdote de ce Dwayne Wade truqueur qui obtenait des coups de sifflet et là qui arrivait aussi à influencer les arbitres, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, je reviens sur cette année 2006 où il shootait énormément de lancers francs. Donc là, il y avait le côté privilège de star.
Donc Dwayne Wade a bénéficié de certains privilèges. Tiff, quel autre joueur
a marqué l'histoire de ce point de vue-là? On ne peut pas faire ce talk sans citer James Harden époque Houston de 2014 à 2020. James Harden, c'était sur ses 6 saisons, 10,5 lancers francs tirés par match, avec une pointe à 12 de moyenne sa dernière saison à Houston. 12 lancers francs tentés par match, sachant qu'il était aux alentours des 90%, c'est-à-dire qu'il était à 34 points de moyenne, et il y en avait quasiment 11 sur lancers francs.
Alors, il avait tout le temps le ballon en main, oui. C'était à l'époque où ils ont changé la règle
du checking. Alors, il avait une vraie capacité de percussion, mais sa faculté qu'il avait à se mettre dans les bras, à mettre ses bras dans tous les sens, façon pantin désarticulé, pour montrer aux arbitres qu'il y avait un contact, alors que parfois il faisait ça, il n'y avait personne autour de lui, il s'entendait les arbitres lui donnaient un coup de sifflet, et les défenseurs disaient attendez, mais il n'y a personne autour de lui à moins d'un mètre, comment c'est possible? Et il allait sur la ligne.
Tu le faisais aussi, mais ça marchait moins bien.
Moi je l'avais jamais dans la raquette. Donc tirer à 3 points et faire
c'est plus Fred qui aurait pu le faire.
Ça marche pas. Et rappelez-vous, Fred en a parlé, il y a eu ensuite des nouvelles directives des arbitres saison 2020-2021 sur les fautes provoquées et les floppings, et là sa moyenne de lancer franc, elle a chuté drastiquement. Il est passé de 11,8 lancers francs par match à 6,5. C'est quasiment divisé par deux. Et il avait la haine d'ailleurs, rappelez-vous. Il ne comprenait pas. Il dit je ne comprends pas, j'ai plus de coup de sifflet.
Ouais, mais je comprends qu'il ait la haine finalement.
Ah bah oui. Mais sauf que la NBA ne voulait plus ces matchs hachés où des garçons passent leur temps sur la ligne des lancers francs parce que ça coupe le match et les gens en ont marre. Et surtout, James Harden a eu cette réputation de flopping. La NBA avait mis en place une règle en disant que faute technique pour flopping, c'était un lancer franc à l'adversaire. Et tout le monde disait, ça c'est la règle pour James Harden, parce que c'était un des plus gros floppers de la ligue. On se rappelle de deux floppings légendaires, un contre Kawhi Leonard, qui est aujourd'hui son coéquipier, où il avait provoqué un passage en force imaginaire pour faire gagner le match sur une dernière possession, et un autre en playoff avec Houston contre Utah, où Rudy il avait à peine chatouillé au rebond, il avait fait un triple salto, et il avait berné les arbitres. Mais à cette époque-là, de Houston, vous regardiez un match des Rockets, c'était affreux. Toutes les 20 secondes, il y avait un coup de sifflet pour James Harden et il allait sur la ligne des lancers. C'était catastrophique.
Il n'y avait pas une histoire aussi de tolérance extrême sur les marchés avec Harden ?
Si, mais bon,
il y a toute la NBA.
Après,
hein.
LeBron James aussi a une tolérance extrême. Toutes les superstars ont un peu de tolérance.
Ils ne sont pas très regardants sur les marchés.
Ils n'ont pas lu l'article 2, alinéa 3 des règles du docteur James Naismith sur la règle du marché, je crois, les arbitres, Pierrot.
Attention, Fred.
Même s'ils sont de plus en plus sérieux.
Oui. Mais là, il y a problème, c'est que là, il y a l'euro de hand et tous les arbitres NBA regardent l'euro de hand et se disent ah finalement trois pas c'est très bien.
Fred va s'en prendre à l'icône. Donc tu sais, il faut que tu t'apprêtes à passer une mauvaise semaine. Tu vas te prendre la communauté MJ sur le dos puisque c'est Michael Jordan pour toi qui a le plus bénéficié de la gentillesse des arbitres.
Mais on vient de citer des stars qui avaient un traitement de faveur parce que c'était des stars. Quelle est la plus grande star du basket ? Michael Jordan. Donc, ça me paraît assez logique. Et moi, ça me fait penser, Arnaud qui vient de le dire, ne jamais faire confiance à un joueur. Bah, Michael Jordan, quand il est revenu au Wizard, c'était un dieu. C'était un dieu vivant. Il a même
poussé...
Il avait
40 ans, c'est un papy. Hein.
Oui, mais je suis d'accord. Il a poussé un arbitre à siffler quelque chose qu'il n'avait même pas vu.
Michael, il n'a pas touché avec les deux mains. Donc, il n'a pas touché avec les deux mains. C'est la chose. Tu penses ça, Michael? 55 hits, 2 to come. Michael, je n'ai pas vu deux mains sur lui, Michael. Mais je crois en toi. But I believe you. I saw one hand.
Soumission absolue.
Bah alors, discussion surréaliste, juste pour expliquer un peu ce qui se passe. L'arbitre, il dit, il a pas touché le ballon avec les deux mains, c'est ça le problème. Et Michael lui dit, si, il a touché le ballon avec les deux mains. Tu crois, Michael ? Ok. Faute au 55, deux lancers francs. Je n'ai pas vu la faute, Michael, mais je te crois. Je te fais confiance. Moi, je n'ai vu qu'une main.
C'est sur Alice, là. Quand
donc, c'est Raël, le grand gourou.
Donc, voilà ce qu'était Michael Jordan. Alors là, on parle de sa fin. Mais quand il jouait en NBA avec une activité normale, quand il était dans la plénitude de sa carrière, il y a Tim Donaghy. Vous vous rappelez de
Tim Donaghy, l'arbitre qui pariait.
Celui qui a triché sur les matchs pour des paris
et trucs,
etc.
Je connais pas l'histoire, je rappelle en deux mots.
Mais en gros, il a truqué des matchs parce qu'il avait fait des paris, il a gagné beaucoup d'argent.
Un arbitre.
Et donc, ils ont fait un documentaire sur lui, hyper intéressant d'ailleurs. Et lui, il explique que Michael Jordan avait un traitement de faveur. Justement, un début de saison où la NBA demande à être plus sérieux, plus rigoureux sur les spin moves. Première action de Michael Jordan, spin move. Donc, Donaghy siffle une faute, un marché sur ça, logique. Alors déjà, t'as Phil Jackson qui tombe sur le rable, qui t'en met plein la tête, qui te massacre. Et Michael qui, en sortant, le regarde avec un œil noir à vouloir le tuer, d'accord ? Donc ça, c'est pas très grave. Sauf qu'à la fin du match, l'arbitre qui arbitrait avec lui dit « Écoute, oui, il y a des nouvelles règles, mais elles s'appliquent pas, Michael. » Donc, alors oui, évidemment, Michael Jordan était un joueur fantastique. Oui, il méritait sans doute la plupart des fautes parce qu'à cette époque-là, le head-checking existait et on pouvait pousser les gars, on pouvait faire beaucoup de fautes. Et on se rappelle notamment des Detroit Pistons qui faisaient beaucoup de fautes, qui étaient les bad boys, etc. Mais à cette époque-là, Detroit était plus respecté que Michael. À partir du moment où il a eu ce respect-là, il a été traité comme il le méritait, avec justement ce traitement de superstar.
Le summum, c'est quand même en la finale contre Utah, où il y a quand même offensive sur Bayon Russell, sur le tir.
Il l'accompagne
vraiment,
un peu.
On va vraiment finir là-dessus, là.
Non, on valide pas ça.
Arrête tes conneries. Il s'arrête comme ça, il met le frein à main.
Il le pousse. Bayon
Russell, il l'accompagne.
Il l'accompagne, c'est pas qu'il touche.
Tiens, mon gars, vas-y, rentre dans la raquette.
Après, tu peux quand même te poser la question, si c'est pas Michael, est-ce qu'il n'y a pas une faute de sifflet ? Ça, tu peux te poser la question, mais concrètement, il n'y a pas faute. Il n'y a rien de plus grave sur cette action.
Non, pas ça.
Mais pourquoi pas,
l'image la plus iconique de l'histoire de la NBA.
Mais c'est impossible de siffler, je suis d'accord.
Voilà, c'est comme Fred Forte qui avait faute sur Tony Kukoc. Voilà, on s'en fout de ça.
C'est impossible de siffler
pour
la légende.
Très bien, donc on a tout dit. Ça ne changera absolument rien à la légende de MJ.
Ah non, mais Michael Jordan, c'est toujours Michael Jordan. Pour moi, c'est toujours le numéro 1. Mais il faut reconnaître que les stars sont traitées d'une autre manière que les autres.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce que Messi avait un traitement de faveur ?
Bien sûr.
Oui, tu peux pas le
cacher. Moi, je trouve ça normal.
Ramos, surtout.
Ouais, mais est-ce que ça écorne son histoire, Messi, par exemple ? Ben non. il avait un traitement faveur parce qu'il l'avait mérité. Non, parce qu'il était au-dessus du lot et qu'en plus, bah,
elle, juste, tout le monde le respectait. C'est juste que tu dois pas t'interdire de le dire au moment où ça arrive. C'est-à-dire que le dire après, c'est bien.
Oui.
Mais
Je commentais pas à l'époque là.
La parole, c'est-à-dire fermer les yeux là-dessus. Moi, je trouve ça nul.
Sur l'arbitrage, Piro, c'est scandaleux. Barcelone, Real, ont toujours été favorisés par l'arbitrage.
Beaucoup Piro. Le Real, ça c'est vrai.
Real tient la maison.
J'ai mis une pièce.
Celui qui est capable de me dire que Sergio Ramos au Real n'avait pas la mansuétude des arbitres, c'est soit un menteur.
Alors que quand il est venu chez nous, il n'avait pas la mansuétude.
Un fou, je veux dire.
Quand il est venu au PSG, il avait perdu ça.
Il avait un peu perdu. Et là, surtout, il avait perdu le coup de rein.
Il avait perdu le champignon de Mario Kart.
En même temps, Pierre, c'est une caste particulière quand même. On sait, avec Geoffrey Charpie,
si vous me dites qu'en finale, contre Liverpool, il ne mérite pas un rouge pour la faute sur Salah, bah, c'est que vous n'êtes pas objectif. Voilà, point barre. Après, ça reste un immense joueur. Et on va finir par le quiz.
Ah, Carmelo Anthony, on va à Madison Square Garden.
Absolument pas, Stephen Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Quel porciné peut shooter sans scrupule.
Quel croquet.
Je commence.
Bah, quel salaud celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple double.
Oh, yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Ah ok, si.
Moi je me dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Ah ouais. T'allais dire Nicolas quoi sur les triple-doubles? Nicolas Batum?
Nicolas Jokic,
je pense,
ouais.
Non?
Oui, oui.
Bon, c'était Russell Westbrook. Ouais, va-t-on parler de Russell Westbrook dans ce quiz? Va-t-on parler de Kareem Abdul-Jabbar dans ce quiz? Vous allez découvrir ça en direct, car c'est pas un spécial Clippers, c'est une boucle. On démarre sur les Clippers et on finit sur les Clippers.
On visite les States.
Sachez, pour la première question, je vous l'ai envoyée hier dans notre groupe WhatsApp. Hein, sur la photo que je vous ai envoyée dans le groupe WhatsApp, on voyait mon ordinateur et il y a la première question du quiz.
Sérieux? Arrête cette bêtise, mais tu l'as fait exprès?
Ah, j'ai fait exprès, oui, mais c'est très dur.
Il n'a pas regardé.
Mais attends,
non, mais... il va la poser.
Basket time, il est où?
Alors après, quand moi je l'ai pris sur mon téléphone, j'ai zoomé, j'arrivais à lire. Et après,
basket time, quelle merde ce match. Alors, tu regardais quoi? San Antonio, Atlanta. Première question.
Est-ce que tu arrives à lire? C'est comme ça, tu peux nous lire la question.
Impossible.
Impossible, ouais,
c'est impossible.
C'est ça le problème. La définition est moins bonne, je ne sais pas pourquoi, une fois que j'ai envoyé la photo. La première question est donc, savez-vous ce qu'est un clipper?
Un bateau.
C'est Fred le premier. C'est un bateau de commerce du 19e siècle, utilisé notamment dans le commerce du thé, dont la route passait par la Californie et la baie de San Diego. Et donc, les clippers ont été nommés les clippers lorsque la franchise des Buffalo Braves est arrivée à San Diego en 1978. Bravo.
Exactement.
Merci Stéphane Bern.
Tu savais tout ça, Fred?
Oui, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Il y a un mec sur TikTok qui explique tous les pourquoi du comment des noms
TikTok,
de... Ouais.
Il bosse, Fred.
Ah, mais c'est l'influenceur Etienne Leca, ça?
Non, je sais plus, un mec que je connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard et ça m'a beaucoup intéressé.
Ah, parce qu'à la base, tu allais sur TikTok, tu voulais pas qu'un mec te raconte l'histoire de NBA.
Je comprends.
Mais j'apprenais des trucs comme lui, je fais des reportages. Lui, c'est en strip club, moi, c'est sur TikTok, j'ai des reportages en fait.
Britney Spears, hein. Cochon, là. Alors, donc toi non plus, tu diras à ta nana de ne pas télécharger Basket Time cette semaine. Hein. Donc ça fait un premier point pour Fred, et les Clippers ne sont pas des tondeuses, évidemment, comme tu as dit tout à l'heure.
Non, mais les Clippers, c'est les sabots que tu mets sur les tondeuses pour raser les cheveux.
Mais,
c'est
le bruit, mais pas dans le cadre de la franchise. Alors donc, du coup, on est sur les Buffalo Braves.
Ah ouais, super.
Je vous ai prévenu que c'était difficile aujourd'hui.
D'accord.
Alors en 76, il y a eu la draft de la dispersion de l'ABA, d'accord, quand les deux ligues ont fusionné. Les Buffalo Braves choisissent un joueur qui joue que deux matchs avant d'être envoyé aux Houston Rockets. Là, ce joueur terminera au Hall of Fame.
Jervin
12 fois All-Star.
Jervin, David Thompson?
Non. Élu parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire, Moses Malone. 3 fois MVP, champion en 83 avec Philadelphie. Ils l'ont drafté. Il a fait deux matchs, il y a eu un problème avec son contrat, il voulait des minutes garanties, ils l'ont envoyé à Houston. Et résultat, ils ont raté Moses Malone. Vous ne connaissiez pas cette histoire?
Non.
Ben c'est normal, personne ne la connaît.
Parce que je suis sur TikTok, mais personne ne me l'a raconté cette histoire sur TikTok.
Moi, je n'ai pas ce genre d'image, moi, sur TikTok.
Un point pour Steve. Donc, Moses Malone, qui a une stat unique, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous la donne, ce n'est pas la question. Hein. Il est le seul joueur de l'histoire qui est MVP deux années de suite avec deux franchises différentes. En l'occurrence, les franchises, c'est Houston en 82 et Philadelphie en 83. Ça non plus, tu l'as pas su sur TikTok. Hein, parce que tu me regardes avec des yeux
mais
comme ça.
Mais je t'écoute, je suis attentif.
Oui, on écoute.
Question. Deux autres joueurs seulement ont été MVP avec deux franchises différentes. Lesquelles?
Kawhi et LeBron.
Non.
Deux joueurs ont été MVP avec deux franchises différentes.
Ouais. Deux autres, en plus de Moses Malone.
Shaquille O'Neal?
Non.
LeBron.
LeBron, c'est bon.
Et Kawhi.
Non.
Il n'a pas été MVP à Toronto.
Non.
Non, Toronto n'est pas MVP de la saison, je crois pas.
Alors.
LeBron avec Cleveland avec Miami. Non.
LeBron avec Miami et Cleveland, absolument. Ouais. Et là, faut, après, il faut remonter un peu plus loin.
Ah ouais, c'est le
Magic, non, je
crois. Bah,
Karim Abdul-Jabbar.
Karim Abdul-Jabbar. Oui.
Avec les Bucks et avec Los Angeles.
Exactement. Avec Milwaukee et les Lakers. Mais ce n'est pas deux années de suite. Il y a, il y a une année d'écart. Donc, ça fait un deuxième point pour Steve avec Karim Abdul-Jabbar. Et on va donc faire un vrai ou faux sur Karim Abdul-Jabbar. OK, Abdul-Jabbar. Première question pour Arnaud qui est à la bourre. Il a effectué sa meilleure saison au scoring lorsqu'il était à Milwaukee, Karim Abdul-Jabbar, c'est vrai ou c'est faux ?
C'est pas aux Lakers, donc je veux dire vrai.
C'est vrai. Saison 71-72. Fred, oui. Il a changé de nom, donc de Lou Alcindor à Karim Abdul-Jabbar, la même année que Cassius Clay. C'est vrai ou c'est faux ?
Oui.
C'est
vrai.
Faux. Concentre-toi deux secondes. 64 pour Mohamed Ali.
Ah oui, c'est
71
long,
pour Abdul-Jabbar.
Ouais, là, 7 ans près, c'est quasiment pareil, c'est bon.
Mais non, début de carrière, Mohamed Ali, quand même.
J'ai peur de ma question.
C'est vrai ou c'est faux ? Dès sa première saison en NBA, il porte les fameuses goggles.
Non, c'est faux.
À cause d'une blessure à l'œil. Ben, c'est vrai, parce qu'il s'est blessé à l'université.
Exactement, exactement. Tout à fait.
Donc, il y a que Arnaud qui a marqué le point, on est d'accord ?
Il n'est plus à la bourre, Jabbar.
Mais vous n'avez pas fini avec Karim Abdul-Jabbar. Vous le savez, qui est aussi très connu pour sa carrière d'acteur et notamment son rôle dans Le Jeu de la Mort avec Bruce Lee.
Les bruitages de ouf.
Ça, c'est la scène, c'est la bagarre finale entre Abdul-Jabbar et Bruce
Lee.
C'est incroyable, ce truc.
Quand il met son pied sur son torse, son pied fait tout son torse.
Justement. Et en termes de bruitage, je vous conseille celle avec Chuck Norris.
Chuck Norris, ouais.
C'est incroyable.
Sur TikTok, il y a des bruitages aussi, mais c'est pas les mêmes mots.
Donc.
Mais attends, tu me fais passer pour qui TikTok, c'est un truc normal.
Je vous fais un point score. Deux points pour Steve, un pour Arnaud.
Mais c'est quoi la question sur son...
Eh ben, on continue le vrai ou faux. Dans sa carrière d'acteur, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vous donne une série des années 90. Vous me dites si oui ou non, il a tourné au moins un épisode de cette série. Vous êtes prêts ?
Vas-y.
Allez, alors, c'est Arnaud. 21 Jump Street.
Ah ouais, incroyable.
La fameuse série avec Johnny Depp.
Incroyable. Très belle série.
J'ai envie de dire vrai.
C'est vrai, absolument.
Il a joué dans 21 Jump Street.
Tu te rends compte ? C'est incroyable. Hein. Fred MacGyver.
MacGyver, c'est incroyable.
MacGyver, série mythique.
Ils écoutent aux Suisses.
MacGyver. Karim Abdul-Jabbar. C'est faux, bravo Fred. Parfait, MacGyver.
Je jouais à la flûte, ça.
Et enfin, ça, c'est pour toi, Steve.
T'étais sur TikTok quand tu faisais ça.
Parce que je pense que t'as vu tous les épisodes.
Parker Lewis.
Sauvé par le gong.
Ring by the bell.
Save by the bell.
Save by the bell.
Il a fait l'épisode final de la saison 3.
Avec Parker Lewis.
Non, c'est pas la même chose. Parker Lewis ne perd jamais.
Screech, ok. La lutte, ils font de la lutte.
Ils font de la lutte.
Ouais, je crois qu'il y a un lutteur. Screech,
Oui, il y a Mario, je sais pas quoi.
Ouais, exactement. Je veux dire oui, tiens.
C'est vrai, c'est absolument vrai, sauvé par le gong. Belle série, incroyable.
Belle série, ça.
C'est vrai que Screech est mort il y a pas longtemps. Hein.
Ouais, pas très longtemps.
Je suis très Screech.
Fred, t'as suivi Sauvé par le gong ?
Bien sûr.
C'est ton époque, ça. Toi, Arnaud, t'as dû rater ça.
On n'est pas trop la même génération, sans vous faire offense.
Parker Lewis, quand il y avait la synchronisation des montres.
C'est possible, ça. Ouais.
Mais il y avait Kubiak.
Kubiak.
Bah, n'importe quel grand dans les années 90 faisait appeler Kubiak au lycée.
Hein. Oui.
Bon, donc Karim Abdul-Jabbar a quand même fait un épisode de Sauvé par le gong. J'espère que vous êtes content de l'avoir appris.
Il a joué dans
Blanche-Face et TikTok dans la vie pour apprendre des choses.
Il a un petit rôle aussi dans Blanche-Face et les 7 mains.
Sur TikTok.
Le score est serré finalement.
Surtout, il joue dans un film oscarisé. Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Exactement. Ça fait 3 points pour Steve, 2 pour Arnaud, 2 pour Fred. Karim Abdul-Jabbar, je ne sais pas si vous le savez, il s'en est pris à Quentin Tarantino après la sortie du film Once Upon a Time in Hollywood parce qu'il a considéré, comme beaucoup, que le portrait fait de Bruce Lee était raciste.
D'accord.
Voilà, trop caricatural. Quentin Tarantino.
C'est quoi, c'est un vrai faux là ?
Non, c'est une question. Oui. Quelle légende de la NBA est sortie avec la maman de Quentin Tarantino ?
Nicholson ?
Non.
Quelle légende de la NBA ?
Kirk Douglas.
Non, Will Chamberlain.
Magic.
Will Chamberlain, l'homme aux mille
failles. Oui, ouais.
Je me suis dit parmi les mille, il y a bien dû avoir.
Et c'est Quentin Tarantino qui a raconté cette anecdote.
Ouais. Il sortait avec qui ?
Bah, la maman de Quentin Tarantino.
Ah, la maman.
En fait, t'as entendu une femme, t'as dit Will Chamberlain.
Oui. Voilà. Will Chamberlain.
C'est vrai bien que ta maman soit sortie avec, je sais pas, je veux dire, Shaquille O'Neal.
Je sais pas, ça te dérange pas, il l'assume apparemment, Tarantino.
Oui.
C'est pas très grave, c'est sa maman.
Ça m'embêterait.
Ouais, moi aussi.
Mais vous êtes un peu rétrograde, hein, vous n'êtes pas complètement déconstruit.
En fait, le problème, c'est que si tu imagines la scène, chaque maman.
Ouais, justement, n'imagine pas la scène, Steve. Les parents, ils ne sont pas là pour ça. Hein. T'as pas à penser aux débats de tes parents, c'est pas bien. Hein. T'es pas obligé, du moins. Alors, Will Chamberlain, contre quel adversaire, a-t-il inscrit ses 100 points le 2 mars 62?
Les Warriors?
Non.
Mike Hahn?
Contre l'adversaire. Quelle équipe?
Quelle équipe?
Repose la question.
Quel adversaire a-t-il inscrit ses 100 points?
Minneapolis, Lakers, Minneapolis?
Non, le 2 mars 1962. Non.
Ouais, j'aurais dit Golden State, moi, au départ, comme ça. Les Lakers?
Non.
Atlanta?
Non.
Will Chamberlain.
New York?
New York. C'est Arnaud qui marque le point. Dans la liste, alors, des meilleurs marqueurs de l'histoire en un match. On parle des 100 points et on redescend là. Les 100 points de Chamberlain. Alors, on le retrouve souvent, lui, dans cette liste.
Bien sûr, tout à fait.
Qui est le premier Européen, celui qui a marqué le plus de points en un
Tony
match? Non.
Pas au Gazon.
Yanis Antetokounmpo.
Yanis, et c'est cette saison, c'est le 14 décembre dernier, 64 points à Yanis, et c'est pour Arnaud qui a dégainé juste avant Stephen. On approche de la fin du quiz, et il y a 4 points pour Steve, 4 points pour Arnaud, 2 pour Fred. On cherche un ex-coéquipier de Yanis, un intérieur de 2m03, drafté en 2014, qui a même joué en Europe et qui a même été coaché par Vincent Collet. Il vient de battre son record dans un match d'Euroleague pour les points, rebonds et passes.
Il doit être ce soir.
Non.
Points, rebonds et passes.
Ah non, c'est...
Ouais.
Hein,
ouais, il vient de le faire là, il y a quelques jours.
Vincent Poirier. Donc c'est un joueur d'Euroleague là, actuellement.
Ouais, il l'a fait avec Valence.
À Inglis.
Damien Inglis a joué avec Yanis Antetokounmpo.
Ah oui, avec Milwaukee, exact.
Ouais, Axel Toupane.
Mais quand tu me dis intérieur, ça m'a...
Oui. Surtout quand je vous ai dit, il a même joué en Europe, il a surtout joué en Europe.
Il a surtout joué en Europe, mais surtout, c'est pas à l'intérieur.
Il est bilingue.
Pas à l'intérieur, Damien Inglis.
C'est un 3-4. 3-3,5, quoi.
Il est bilingue. French.
Alors, je t'accorde un demi-point pour mon erreur, Fred. C'est pas un intérieur, Damien Inglis?
Bah, pour moi, c'est pas un intérieur.
Il joue pas intérieur à Valence?
Maintenant, oui. Sauf qu'à l'époque, il jouait plutôt 3.
Il est bilingue, non?
En Inglis.
Il est bilingue, Damien Inglis.
Il parle
French et Inglis.
C'est très bon, Steve. Donc, drafté en 2014. Draft 2014.
Oh.
Qui est drafté en 41e position?
En 2014.
Poirier?
Ça fait 9 ans. 9 ans.
En qui, combien, t'as
un,
dit
un Français.
2014.
Un Français.
Et la position?
41.
Jokic? Non.
Papi. Oui, Jokic. Combien de toi, Fred? Tu reviens. Le score, c'est incroyable. 5 points pour Steve, 4 points pour Arnaud et 3,5 pour Fred.
3,5.
Et c'est la dernière question. C'est la question multipoint, mais qui se joue aux enchères. OK? Vous pouvez marquer de 1 à 5 points. Oui. Il n'y a pas plus que 5. En début de saison, on en a parlé tout à l'heure, les Nuggets ont humilié les Clippers en allant gagner à Los Angeles sans Jokic, Gordon ni Murray. Vous allez me donner le 5 majeur de Denver ce jour-là.
Ouais, t'es un cochon.
De 1 à 5. Une erreur et c'est mort, hein, je vous donne les points à l'adversaire.
Attends.
C'est Fred qui commence les enchères. Est-ce que tu es capable de m'en donner 1, 2, 3, 4 ou 5?
3.
3, c'est bien. 3, ça te fait gagner le match. Est-ce que tu en chéris, Arnaud?
Non.
Est-ce que tu en chéris, Steve?
Je vais tenter 4.
Tu tentes 4. Allez, tente-moi les 4.
Attends, peut-être qu'il
y a 4. 5.
Ah 4, oui, 5, 5. Est-ce que tu veux tenter les 5?
Non, je ne sais pas.
Répète. Qui ne joue pas? Jokic?
Non. Oui, qui ne joue
en
pas?
En début de saison, là.
Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray.
Ok.
Jokic, donc, Aaron Gordon.
Starting point guard, Reggie Jackson.
On y va.
Ouais,
c'est
Jackson,
bon.
Facile.
Michael Porter Jr. Ouais.
C'est bon.
DeAndre Jordan.
C'est bon.
Ouais. Ouais.
Et j'ai une grosse hésitation entre Christian Brown et Peyton Watson. Je veux dire Christian Brown.
C'est pas bon.
Il y a même un petit Mike
Strother qui démarrerait.
C'est Watson qui
ira. Attends.
Ou il y a Strother aussi qui aurait pu démarrer. Hein.
Je veux qu'il y ait un vainqueur un peu avec du panache, puisque je donne 2 points à Fred, 2 points à Arnaud. Donc ça fait 6 à 5,5. Alors, tous les noms que vous m'avez dit sont faux. Le premier qui me donne un bon nom de starter, il en reste 2 à trouver, à gagner le quiz.
Non,
entre les deux, toi t'es mort, toi.
Il reste 2 joueurs à trouver, là.
Bah ouais, il en reste 2, puisqu'il
y a des... Zeke Nagy,
Holiday.
Justin Holiday, c'est gagné pour Fred. Bravo, Fred. Ouais. T'as gagné le quiz, Fred. C'est incroyable, c'est exceptionnel. À la semaine prochaine.
J'ai gagné la dernière.
Et l'autre, c'était Caldwell Pope.
Ah, Kentucky.
Oh, non, pas Chris MVP.
Quel mistake.
Ça, vous deviez l'avoir.
Oui, bah oui.
Bravo. Bravo à toi, Fred.
RMC Basket Time.